attendu un.
7:35, mes espions en Beauce m'ont dit que c'est juste l'autobus qui est en retard.
Et voilà!
Ouais, c'est ça. Je t'inquiète.
Tu fais bien.
Ben oui. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est vrai que l'autobus est en retard ou ils veulent juste pas aller à l'école?
Yann est en train de fermer des commissions scolaires parce que ces gars n'étaient pas dans l'autobus.
Leur mère est à Montréal, j'étais un peu inquiet. Là.
En passant, parlant d'inquiétude, on a eu un excellent texto tout à l'heure d'une personne qui travaille dans les écoles hein, qui oui. dit faut appeler maintenant les parents parce que sinon on reçoit trop de plaintes.
Parce que ton exemple, enfant s'est scratché.
Ouais, exactement. Ton enfant se plaint que ses pantalons sont mouillés. Ton enfant se plaint qu'il a mal à la tête.
Ouais.
Ils appellent systématiquement les parents parce que s'ils gèrent par eux-mêmes, ils ont trop de plaintes des parents qui disent oh! Qu'est-ce que t'as fait là?
On s'est ajusté au maillon faible de la société.
C'est ça.
Ouais, c'est assez particulier.
T'as tout compris. C'est pareil pour les buttes de neige là, quand on t'est rendu à calculer la hauteur de la butte de neige.
Les gars. Quand est-ce que vous alliez chercher vos enfants, Tom, être plus jeune, mettons? Fallait-tu vraiment qu'ils soient malades? Ils restaient-tu à l'école? Nous, on avait. Hey, fallait être malade en sapristi.
Ben, vraiment, moi aussi.
Ouais. C'est sûr qu'on fakait peut-être un peu plus dans le temps, là, qu'on avait des mots qui faisaient en sorte qu'on voulait pas étudier puis on voulait pas être à l'école. Mm-hmm. Fait que les profs le savaient dans le temps. Aujourd'hui, ils prennent plus de chance. Mais écoute, c'est correct. Là. C'est juste que des. Puis cette année, c'était un peu plus tranquille. Mais à un moment donné, là, j'avais des courriels de l'école à tous les jours pour me parler de ce qui se passait à l'école. Puis. C'est-tu tous les parents là, qui sont aux aguets de ça 25 ouais. fois par jour?
En tout cas, pas moi, parce que des fois, je trouve que j'en ai trop de courriels d'école. J'en saute un ou deux.
All right. 418-971-1021, qu'est-ce qui se passe sur la route, Jeff?
Ah, sur la route, c'est vraiment congestionné partout sur le réseau, de Seigneurial jusqu'à Pierre-Bertrand, sur Félix-Leclerc en direction ouest. Laurentienne, je vous dirais là, que c'est presque de Jean Talon jusque justement à Félix-Leclerc. Par la suite, sur Robert Bourassa, ça débute là pratiquement de Chauveau jusqu'à environ Père-Lelièvre, la congestion en direction sud. Direction sud, toujours sur Henri IV, dépassé Sainte-Geneviève jusqu'à Félix-Leclerc. Et sur la rive sud, c'est vraiment pas beau, là, l'approche au pont de l'attente là, dans les trois directions, c'est-à-dire 20S, 20Ouest, 20S à côté de Chemin des Îles et du côté de la 73, c'est dépassé Avenue de la Rotonde. Alors, c'est un matin très difficile sur les routes, peut-être expliqué par le vent et les précipitations qu'il y a à l'heure actuelle.
Pascal?
Ouais, ben c'est pas la switch deux, trois fois, ça allume pas dans le foyer, c'est normal, il y a des pannes électriques, comme on dit, ils vantent à écorner les bœufs. Capitale nationale, c'est près de 9000 adresses maintenant qui manquent d'électricité, donc 9000 foyers. C'est beaucoup dans la Jacques-Cartier. Je vois du Cap-Rouge, je vois du Québec-Ouest aussi. Je ne suis pas capable de vous dire quand est-ce que ça va être rétabli parce que Hydro-Québec est partout au Québec. Chaudière-Appalaches, 7000 adresses sans électricité. Et au total, dans la province, on est près de 225 000 là, foyers sans électricité.
Merci beaucoup. 7h38, on parle des dossiers de Donald Trump un peu partout dans le monde avec le meilleur chroniqueur en politique américaine, c'est Luc Laliberté. Puis c'est nous qui avons la chance de l'avoir le matin. Salut Luc!
Ouais, bonjour à vous trois.
Très content de te jaser. On parlait, moi, Jeff et Pascal Caron-Vézina ce matin de Donald Trump qui a de l'énergie à en revendre. Comment il fait à presque 80 ans pour être en guerre partout, être tout le temps sur les réseaux sociaux, être tout le temps dans les médias? C'est juste incroyable. Penses-tu qu'il prend son Veggie Green chaque matin?
Écoute, c'est un régime alimentaire à nul autre pareil, très riche en calories. Il semble que dans son cas, ça aille bien et il va à l'encontre de ce que son secrétaire à la santé et aux services sociaux encourage. Donc, Robert Kennedy Jr. critique assez souvent le régime alimentaire de Donald Trump. Mais écoute, 80 et...
Il est partout.
Hyper actif.
Ah, incroyable. Là, le détroit d'Hormuz, ça sème l'inquiétude en raison ouais. de la montée du prix du pétrole. C'est hyper inquiétant. Moi, j'ai toujours pensé que la politique, c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu machiavélique aussi. En même temps, on devait prévoir plusieurs coups d'avance. J'ai l'impression qu'il s'est fait prendre un peu de court avec la montée du prix du pétrole, que le détroit d'Hormuz laisse craindre le pire parce que l'Iran est collé sur le détroit d'Hormuz. Puis les pétroliers doivent passer par là pour sortir le pétrole. On parle d'à peu près 20% du pétrole mondial qui transite vers là. Et ils semblent demander de l'aide actuellement. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a juste la France qui a tendu l'oreille puis dire bon, on va peut-être t'aider. Là. On en est rendu où dans ce dossier-là?
Voilà, d'abord, je reviens sur un petit extrait ou un petit segment de ce que tu viens de me dire. Est-ce qu'il a vraiment été pris de court pour Hormuz? Moi, ce que je lis, et c'est revenu à quelques reprises dans les médias puis dans les sites plus spécialisés là, en opérations militaires, c'est qu'on l'avait mis en garde. Quand un président prend une décision comme ça, quand on s'en va en guerre, quand on sollicite l'armée, habituellement, on va chercher l'avis des chefs d'état-major interarmés. C'est le groupe de conseillers militaires du président, ce qu'on appelle en anglais les Joint Chiefs of Staff. Et il y a le général Kane qui est là et qui, lui, avait acheminé la réflexion à Donald Trump en disant « Vous savez, si vous ouvrez le feu sur l'Iran, si vous bombardez l'Iran, il y a un certain nombre de retombées ou d'écueils auxquels vous allez être confrontés. Et parmi les doutes, les réserves qu'on émettait, il y avait la gestion du détroit d'Ormuz. Donc, on avait dit, attendez-vous, si vous faites ça, à ce qu'on bloque le détroit d'Ormuz. Donc, si c'est une surprise, c'est que Donald Trump faisait un roupillon ou qu'il dormait, qu'il était distrait.
Il n'était pas aussi énergique que prévu, finalement.
Ben voilà, ça lui arrive. Écoute, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un power nap. Il semble que le président se laisse aller à un power nap.
On a vu quelques images ici et là.
Mais plus sérieusement, donc, c'était connu, documenté, et on avait avisé le président et son équipe avant de commencer à bombarder l'Iran. Ça ramène ça sur le tapis, le caractère qui semble un peu improvisé de l'opération. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'il y a du bon et du moins bon si on ne pense qu'au volet militaire, c'est que les frappes qu'on a effectuées jusqu'à maintenant, elles sont d'une précision qui est chirurgicale. Elles ont été drôlement efficaces. Les militaires qui étaient en charge des opérations ont fait un travail, on oublie l'éthique, la morale ou est-on pour ou contre l'intervention, ils ont fait un travail qui est extraordinaire. Maintenant, la conséquence, on aurait dû l'attendre, elle était prévisible. Pourquoi c'est si difficile pour Donald Trump d'ouvrir le détroit d'Ormuz? Son secrétaire à la défense, qu'on appelle le secrétaire à la guerre sous l'administration Trump, a dit « mais il est ouvert le détroit, sauf que les Iraniens nous bombardent ». C'est une phrase qui ne s'invente pas, là. Donc c'est censé être celui qui est le responsable de l'armée la plus puissante de la planète qui s'exprime de cette manière-là.
Il voulait juste dire qu'ils n'ont pas fait un barrage là, en Iran. Ils n'ont pas fait un barrage.
Voilà. Donc, on attendait les castors dans le détroit d'Ormuz. Ça aussi, au plan géographique, c'est moins bon. Donc, pourquoi est-ce que c'est compliqué pour les Américains, pour l'armée américaine, la Navy ou les forces navales? D'abord, ça ne prend pas beaucoup de matériel aux Iraniens pour être en mesure de bloquer le détroit d'Ormuz. La seule menace de frappe dans le détroit d'Ormuz, ça suffit à faire arrêter des navires en progression ou, dans certains cas, les faire rebrousser chemin.
Augmenter le prix des assurances aussi pour assurer cette cargaison-là, assurer le pétrole.
C'est exactement là où je m'en allais. C'est pour quel motif un navire va-t-il arrêter si on a l'armée américaine ou la Navy, la force navale américaine qui disent « on va vous escorter ». C'est parce que les assureurs disent « s'il arrive quelque chose, nous, on ne paie pas ». Donc, c'est aussi terre-à-terre et pragmatique que ça. Qui a envie d'assurer une cargaison dans une région qui est aussi explosive? Et c'est là où les Américains, donc, et ce renversement-là de situation est très mal accueilli. Président Trump qui dit « écoutez, il y a plein de pays sur la planète qui ont intérêt à ce qu'on ouvre le détroit d'Ormuz, à ce qu'on facilite la circulation ». Et là, on a eu des bruits de criquets pendant un moment. Donc, il y a effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure, le président Macron qui, selon Donald Trump, est à 8 sur 10 sur l'échelle d'approbation d'y aller. La version qu'on a officiellement en France, c'est « il n'a pas dit oui ». On avait Keir Starmer aussi, le premier ministre britannique, qui a dit « possible qu'on fasse ça, on se laisse désirer, tirer l'oreille ». Alors qu'ailleurs, carrément, c'est la version diplomatique de WTF. What the fuck? Ça fait déjà un certain temps, depuis le retour de Donald Trump, qu'on exerce la pression sur les alliés. On les a même insultés. On critique les démocraties occidentales. On a tenté de mettre le feu dans la plupart des alliances qu'on avait. On a été très, très, très dur avec l'OTAN. Là, Donald Trump se retrouve dans la situation où il a un cours accéléré de pourquoi on avait créé des alliances après la Deuxième Guerre mondiale? Bien sûr, quand on a créé ça, il n'y avait pas la Chine et la Russie qui revenaient à la charge, là. Donc, bien sûr, le contexte a évolué. Mais c'est un cours accéléré de, avant de tout jeter par-dessus bord, de jeter le bébé avec l'eau du bain, vous auriez peut-être dû préserver certaines alliances. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. Et cette crise-là, elle a été provoquée par l'administration Trump. Donc, c'est possible que les Américains, en guillemets, au plan militaire, l'emportent, gagnent. Mais quel était l'objectif derrière cette opération-là? Ce n'est pas encore très clair. Les Américains se sont plongés dans le pétrin, mais avec des conséquences maintenant. Les Québécois puis les Canadiens se sont réveillés avec des prix soudainement beaucoup plus élevés à la pompe, mais des prix plus élevés à la pompe, c'est presque tout éventuellement qui va coûter plus cher. Donc, un président américain qui disait « je ne ferai pas la guerre », puis un président américain qui disait « moi, contrairement à Joe Biden, je vais ramener le prix du bidon d'essence très bas », bien, les Américains sont aussi confrontés à un bidon d'essence qui approche dangereusement en moyenne nationale. Le prix, ça varie selon les États en fonction de la taxation, là. Mais on approche du 4 $ comme prix moyen pour le bidon d'essence aux États-Unis.
Luc, en géopolitique, pourquoi Donald Trump s'en prend autant au Royaume-Uni et à son premier ministre Keir Starmer? T'es, qu'est-ce qu'il a gagné de s'en prendre spécifiquement à eux?
La logique est assez difficile à établir dans ce cas-là, parce qu'on avait, puis on remonte dans le temps, le contenu historique est utile pour ça, toujours pour éclairer l'actualité, du moins en tout cas dans mon cas. Ça a souvent été, même dans les opérations les plus controversées, le Royaume-Uni a été un allié des États-Unis. C'est un allié aussi au plan économique. Il faut se rappeler que quand on a eu le fameux Brexit, les Britanniques ou le Royaume-Uni étaient drôlement intéressés à rétablir ou à développer les liens avec les États-Unis.
Oui, puis ça a été les premiers à avoir cette espèce d'entente-là lors de la guerre tarifaire aussi.
Voilà, donc si je suis un dirigeant étranger, c'est très, très difficile pour moi de dire que je sois du Royaume-Uni ou ailleurs dans l'Union européenne. C'est très difficile pour moi de dire « j'ai un partenaire maintenant qui est fiable, en qui je peux avoir confiance ». Parce qu'il semble que la parole de Donald Trump ne vaille que le temps qu'on appose sa signature. Puis ensuite, on se retrouve avec de multiples complications. Ou encore une tactique que Donald Trump a souvent utilisée en affaires, ça c'est largement documenté. C'est-à-dire que Donald Trump, tant qu'on lui en donne, il va en prendre. Reculer, parfois, souvent, c'est une stratégie. En négociation, on prend un pas de recul pour mieux revenir par la suite. On veut se garder un pas de recul puis une certaine perspective. Dans le cas de Donald Trump, si vous reculez, il va prendre le terrain que vous venez de libérer et il va continuer à en demander plus. Et la seule question qui reste ensuite, c'est ai-je les moyens de cesser de reculer? Ai-je les moyens de repasser en mode attaque? Et souvent, considérant l'importance de l'économie américaine puis la puissance américaine, il faut s'y mettre à plusieurs. Et c'est un des volets, on le voit avec l'Union européenne, qui est très difficile à gérer. Comment on peut faire front? Comment on peut parler d'une seule voix face aux géants américains?
Luc, peut-être en terminant sur le sujet des alliés dans ce cas-ci, l'OTAN réagit plus ou moins. Il s'est tourné Donald Trump vers Pékin. On veut des navires de guerre. On a une entente-ish entre les deux pays, mais c'est pas toujours au beau fixe entre eux. Est-ce qu'ils
Absolument
vont répondre?
Pas. Moi, j'ai hâte de voir la position. La Chine peut... Et là, c'est toujours délicat. Je vulgarise, puis si jamais on en a besoin, j'irai plus loin. La Chine est dans une position où elle peut attendre, même si c'est un des principaux partenaires de l'Iran pour ce qui est de l'énergie. Donc, la Chine, d'abord, c'est pas une démocratie. Donc, les dirigeants peuvent se permettre souvent de prendre des décisions sans penser aux sondages. Donald Trump semble être en mesure de le faire, d'ailleurs. Dans l'opinion populaire, Donald Trump et les Républicains sont peut-être pas au plus mal, mais c'est particulièrement faible comme appui. Mais l'Asie, habituellement, la Chine en particulier, ils se gardent un pas de recul. Et ce conflit-là coûte cher aux Américains. Ça les place dans une situation très, très difficile. Et il n'y a pas que le pétrole en jeu. Pensez à l'approvisionnement, par exemple, un exemple parmi d'autres de choses qui transitent par le détroit d'Ormuz, les semi-conducteurs. On a vu ce que ça crée comme situation quand on manque de ces fameux semi-conducteurs dont on a besoin à peu près partout sur la planète maintenant. Donc, on pourrait faire le pari de l'attente sans avoir à s'impliquer. Parce que moi, une des choses que je surveille, c'est Donald Trump, pour le moment, au plan militaire, à n'en point douter, c'est dominant. Mais pendant combien de temps peut-il vivre avec les effets de sa propre politique et des retombées, c'est-à-dire les effets, les retombées sur son propre pays et sur ses concitoyens? Dans une année électorale, là, il y a des républicains qui sentent la soupe chaude. Donc, si dans les sondages, ça ne va pas bien là, l'échéance électorale, elle approche. C'est au mois de novembre avec les élections de mi-mandat.
Très pertinent comme questionnement. Merci beaucoup, Luc. C'est toujours un plaisir de jaser.
Une bonne journée à vous trois. Plaisir partagé.
Salut Luc.
Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine. Toujours très intéressant. Le podcast va être disponible au blvd.fm ou encore sur l'application Boulevard 102.1. Jeff.
Sur la route, c'est toujours très difficile. Félix Leclerc, direction ouest, c'est encore de Seigneurial jusqu'à Pierre-Bertrand. Autoroute Robert-Bourassa, direction sud, c'est de Chauveau jusqu'à Père-le-Lièvre. Du côté de Henri IV, direction sud, la congestion est toujours de Sainte-Geneviève jusqu'à Félix-Leclerc. Sur la rive sud, c'est encore très difficile l'accès au pont, notamment en direction de la 73. La congestion va jusqu'à l'avenue des Rotondes. Et la 20S, c'est toujours jusqu'au chemin des Îles.
Après la pause, Denis Gravel s'en vient et Pascal va nous faire quelques manchettes, on vient.
Pour nous informer de ce qui se passe dans